Bonjour Marie-Danielle.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là.
Merci.
Est-ce qu'on se tutoie?
Ben oui, pourquoi pas.
On se connaît.
Ben oui.
On se connaît depuis quelques années.
Oui.
Un sujet, Marie-Danielle, qui te tient à cœur, un déclencheur peut-être, parce qu'il y a quelque temps, novembre 2014, une jeune étudiante en médecine, résidente en médecine interne au CHUM, 27 ans, s'enlevait la vie. Il y a des statistiques claires en ce sens. Au Québec, près d'un étudiant sur cinq étudiant en médecine pense au suicide. Pour toi, quand ça surgit, ça, dans les médias, ça a été un déclencheur de t'intéresser à ce sujet-là.
Clairement, clairement. J'avais déjà auparavant vécu quelque chose de similaire parce que mon frère, qui était en gériatrie à Notre-Dame, était mort d'épuisement en 2002. Puis je cherchais quelle était la façon de dénoncer cette situation-là de façon posée, ferme et avisée. Et puis j'ai pensé que la bonne façon de faire, c'est d'avoir un réseau personnel. Donc, j'ai mis sur pied les groupes de recherche et développement en soins pour soignants et j'ai réuni autour de moi toutes sortes de spécialistes pour qu'on puisse se donner du soutien. Et ça fonctionne vraiment très bien. C'est d'ailleurs important d'avoir son groupe de soutien en plus d'avoir son réseau professionnel, bien sûr. Et quand le décès d'Émilie Chartrand est arrivé, j'ai mis le point sur la table, Marianne. Mm. Puis je me suis dit, je vais aller plus loin. Je veux me rendre auprès des gens, puisque c'est ma spécialité, dans tous les domaines professionnels, auprès des soignants, pour justement leur apporter ce soutien-là, les aider à se prendre en main et prendre soin d'eux. Parce qu'en prenant soin de soi, c'est bien certain qu'on fait un meilleur travail, on est plus éveillé, on est en meilleure santé, on est fier de soi et on peut mieux aider les autres.
Ouais. Qu'est-ce qui guette les soignants en matière de santé? On pense là, souvent santé mentale. Là, à quoi ils sont confrontés?
Mais ils sont confrontés principalement à la dépression, à la fatigue, au stress. Je dirais même à l'épuisement.
Mm-hmm.
Ils sont dans une situation souvent où tout doit se faire rapidement, c'est entre la vie et la mort, on veut faire quelque chose de bien. Parce que qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait le serment d'Hippocrate? C'est quoi? Avant tout, ne pas nuire.
Ouais.
Ne pas nuire d'abord à soi. C'est l'exemple qui enseigne, on le sait tous. Et ensuite, ne pas nuire dans notre travail à l'autre. On est avec la santé, on est avec des vies humaines, des êtres vulnérables, des êtres qui ont besoin de nous. Et nous, il faut qu'on soit équipés pour pouvoir le faire. Il faut aussi qu'on soit fiers de soi. Si on est épuisé, on est déçu de ne pas donner notre 100%, on n'est pas tout à fait là. On risque de faire des erreurs. Si on fait une erreur, on est encore plus malheureux.
Oui.
Et on sait qu'on est responsable de quelque chose d'important. La santé, à partir de ça, tout vit.
Oui.
Alors, si on ne l'a pas soi-même, c'est bien clair qu'on ne peut pas venir en aide aussi bien aux autres. Puis,
Marie-Danielle, la CSST révélait des chiffres effarants aussi en matière de violence dans les milieux de santé et le personnel soignant, les soignants sont extrêmement victimes, très souvent victimes de violence dans leur milieu de travail. Ça aussi, c'est un facteur qui peut affecter la santé mentale.
Ça, Marianne, là, tu soulèves quelque chose qui est presque tabou. C'est très, très important ce dont tu parles parce que franchement, les gens, quand on parle de ça, ne sont même pas au courant, sont même étonnés. C'est vrai, ils reçoivent des coups de pied, des coups de poing dans le ventre, ils vont recevoir quelque chose, un objet qui peut faire en sorte qu'ils se font ouvrir le crâne, ils se font insulter avec des mots qui sont pleins de violence. Ce sont des êtres humains souffrants qui arrivent dans les hôpitaux. Parfois, c'est une souffrance physique intolérable. Les nerfs sont à bout, ils réagissent de façon incontrôlée et incontrôlable. Parfois, on s'y met à 4, 5 pour contrôler quelqu'un. Ça peut être un problème de maladie mentale. Et les portes, comme disait l'entrevue, sont ouvertes à n'importe qui peut rentrer.
Bien oui.
Alors, nous, on les accueille dans notre bonne vocation d'aider notre prochain. C'est notre travail, avoir une meilleure santé. Mais on ne s'attend pas à recevoir nécessairement toutes ces choses-là. Bien sûr qu'on le sait, on nous avise en formation puis avec l'expérience, mais c'est quand même toujours étonnant à quel point ça peut être quand on le reçoit et on le vit. Et quand on calcule, et c'est bien mentionné, que 100% de ces personnes-là ont subi de la violence, soit verbale ou physique, des personnes travaillant, on parle des infirmiers ou des gens dans les hôpitaux, c'est toute une statistique. Là, on ne peut plus retourner de bord, on ne peut plus être aveugle, puis on doit absolument prendre conscience de ça, de voir la vérité, de s'y pencher. Les gens dans la société se plaignent justement du service de santé, mais il faut aller voir pourquoi. Et la cause, elle est là. La cause, elle est là. D'abord, prendre soin de nos soignants pour avoir une société qui est mieux soignée. Mm-hmm. C'est la base.
On parle de tabous, Marie-Danielle. Tu as travaillé dans les hôpitaux
bien
en
sûr.
Tant que massothérapeute clinique dans différentes...
Soins palliatifs.
Voilà, différentes oui. unités. Est-ce que c'est un tabou entre le personnel soignant de parler de nos soucis en matière de santé mentale, de dire « je suis fatiguée, je suis épuisée, je ne peux plus continuer, j'ai de la misère à me lever le matin » ou peu importe ce qu'on pourrait entendre, là. Est-ce qu'ils en parlent entre eux?
Malgré tous les services de soutien qui existent, oui. Oui, parce que quand on en parle aux collègues, quand on en parle au patron, on est considéré comme quelqu'un qui est plus faible, qui n'est pas capable de faire sa tâche. Et à ce moment-là, on essaie de trouver des solutions. On va prendre quelque chose qui va nous tenir un petit peu réveillés, ouais. un petit verre pour pouvoir décamper la journée à la fin. Il y a des problèmes de drogue, des problèmes de boissons, d'alcoolisme, des problèmes de famille, familiaux sérieux, là. Parce que ces gens-là sont épuisés, ils sont violentés, Bon, on parle, il faut s'entendre, on parle de l'aspect fermé, caché. Faut pas oublier aussi tout le positif et tout le bien et le beau qu'on vit dans ce métier-là.
Oui, bien
c'est bien sûr.
Sûr,
ce n'est pas que ça. Mais c'est important de mentionner cette partie-là qui vient arracher toute l'énergie merveilleuse qu'on pourrait mettre au service des gens parce qu'on ne l'a plus. Elle nous est siphonnée. Et ça commence dès les études. C'est pour ça que tu parlais tantôt d'une personne sur cinq.
Un résident sur cinq.
C'est quelque chose, là.
Ouais.
Alors, puis on voit par rapport aux hommes et aux femmes les suicides.
Voilà.
L'homme qui est dans le domaine médical, le médecin, va avoir plus de tendance à penser au suicide que l'homme en général dans la société. Et la femme médecin, encore plus que l'homme médecin.
Voilà. Dans l'article du docteur Vadeboncœur, il en parle ça, que
oui.
les femmes, les soignantes, sont
oui.
davantage touchées par la dépression, pensée suicidaire.
Oui.
Il fait aussi le lien avec la conciliation travail-famille. C'est
Absolument.
Un métier aussi extrêmement difficile. Il n'y aurait pas un lien
oui.
également à faire?
Oui, parce que l'homme va généralement, on parle en général, hein, c'est pas des étiquettes qu'on pose, c'est très important. Mais en général, selon les statistiques, on a vu que l'homme va plutôt se plonger dans le travail. Il va s'épuiser par le travail. C'est un pourvoyeur de nature. La femme, elle est maternelle, éducatrice de nature, donc elle va s'occuper de la famille. Quand elle a fini ses heures de travail qui sont, on le sait, surréalistes, considérables dans le domaine de la santé, elle arrive à la maison puis elle fait un deuxième chiffre
oui. mm-hmm.
avec la famille et s'occuper de tout. Le temps pour elle, pour dormir les fins de semaine, est-ce que ça existe? C'est minimisé. Donc, c'est très exigeant parce qu'il y a toutes les responsabilités, les devoirs, les enfants, l'éducation, les problèmes. Donc, ça s'ajoute à tout ça.
Oui. C'est quoi les symptômes d'un épuisement professionnel ou d'un soignant? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui en ont dans leur entourage ou, bon, qui ont des amis. Moi, j'ai une bonne amie qui est médecin.
Oui.
Comment on peut
Oui.
observer des signaux qui pourraient être alarmants?
Mais d'abord, la fatigue, l'épuisement. Quand on commence à sentir, on n'a pas le même élan pour aller au travail. L'angoisse, la nuit, quand on a de la misère à dormir, puis que ça tourne dans notre tête régulièrement, ou que ça tourne pas du tout, mais on n'arrive pas à dormir. On est pleinement éveillé quand on devrait dormir. Quand on commence à perdre un petit peu notre concentration, on sent qu'on n'est pas aussi vite que d'habitude, on répond pas aussi bien. Quand on est plus sensible à ce que les gens nous disent, à ce qu'on vit par rapport aux patients qu'on rencontre, on va dire « Ah, c'est drôle, ça me touche plus que d'habitude,
Oui.
ou je pleure à rien, ou je me choque facilement, ou quand on sent qu'on a besoin aussi d'une béquille pour pouvoir continuer à faire notre travail.
Alcool, drogue,
Oui,
médicaments.
Ou quand, tout simplement, on commence à avoir une forme de petite, hein, je la mets en gros guillemets, paranoïa par rapport à notre entourage, à dire « Oh, faut pas que je parle de ça, faut que je montre que tout va bien, que faut... » C'est à partir de là, il y a quelque chose qui est un petit peu plus anormal qu'à l'habitude. C'est bon d'avoir... C'est pour ça que je parle des groupes de recherche et développement en soins pour soignants. C'est pour ça que j'enseigne l'approche clinique de la relation soignant, soigné, avant tout prendre soin de soi et ensuite prendre soin de l'autre. Et l'interdisciplinarité est une ressource extraordinaire parce que on est dans cette... Justement, dans ces eaux-là, en ce moment, on travaille de concert avec différents spécialistes, mais on peut s'en aller vers un chiropraticien, on peut s'en aller en massothérapie, dire, par exemple, en massothérapie, on s'en va, en soins palliatifs, je le fais. J'apporte un support aux infirmières, aux médecins, on travaille ensemble, on regarde ce qu'on peut faire chacun dans notre domaine. J'ai quelqu'un, un urgentologue, qui travaille dans ce domaine-là depuis 25 ans, qui m'a dit, Marie-Danielle, je pourrais te référer à peu près 70 % des cas qui viennent à moi, des problèmes d'épaule, de tension, de dos, de nuque, de poignet. Bien sûr qu'on peut déléguer des choses. Et si chacun travaille avec l'autre dans cette interdisciplinarité, mais vraiment dans les limites de ses fonctions, avec une écoute et un langage commun, on arrive maintenant à délester le surplus incroyable de travail qu'il y a chez certains spécialistes et on sent qu'on a des appuis. On commence à avoir un réseau professionnel en qui on a confiance, qu'on a d'abord et avant tout approuvé parce qu'on a travaillé avec eux et ensuite, on fait un gros backup avec un réseau personnel. Ça veut dire des personnes dans le domaine de la santé ou autres qui sont tout près de nous pour prendre soin de nous, comme un groupe de Jedi. Hein? Mon frère les appelait comme ça. C'est des groupes de Jedi. Et donc, avec ça... On se soutient et moi, je le sais, depuis 2006, j'ai vu, on a avec nous médecine interne, gériatrie, urgentologue, soins infirmiers, massothérapie, kinésithérapie, ostéopathie, chiro, toutes sortes de gens qui sont avec nous et on se soutient depuis 2006. Et on a passé à travers des épreuves, des deuils, des choses incroyables, des accidents où, moi entre autres, où je pensais ne plus remarcher. Et on en sort plus fort. Et ce qu'on apprend quand je parle de recherche et développement, on l'a fait à travers ce qu'on vit en s'entraidant. Et de là, on peut tellement mieux aider nos patients, être à l'écoute d'eux parce qu'on est à l'écoute de soi.
Donc, se soutenir... Entre soignants, première piste, apprendre la relation soignant-soigné. Et ça, c'est important parce que souvent, bon, pour avoir des gens, des soignants autour de moi, je me rends compte souvent cordonniers mal chaussés.
Oui.
C'est-à-dire oui. un soignant qui ne s'occupe peut-être pas aussi bien de lui qu'il le fait avec les autres. On sensibilise comment le soignant à dire « OK, toi d'abord ».
Bien, une des choses qui est importante, je disais tantôt, on prêche par l'exemple, c'est le bonheur de faire ce qu'on fait. Puis pour être heureux, il faut se donner de la joie, du bien-être. Il faut être en santé. On dit « aime ton prochain comme toi-même ». Le subconscient va toujours comprendre le prochain en premier. Mais moi, je dis « aime-toi ». Et de la même manière, aime ton prochain. On dit « un esprit sain dans un corps sain ». Encore là, le subconscient comprend que l'esprit va en premier, la raison. Moi, je dis « quand le corps est sain, l'esprit l'est aussi ». Et ça va comme ça, cet enseignement-là. On s'en va tranquillement à juste mettre un peu d'humour, écouter, passer à l'écoute, c'est la première étape. Tout n'est que ça. Écoute, c'est bien de partager comme on le fait aujourd'hui, mais le silence est d'or.
Oui, ça fait du bien aussi. Oui. On s'arrête ici. Déjà, ça a été à la vitesse de l'éclair, Marie-Danielle, mais vous reviendrez. Vous serez
oui.
toujours, tu seras toujours la bienvenue pour venir en parler. On laissera ton Facebook personnel sur notre site. Également, on laissera ton adresse. Tu invites les
courriel,
gens
oui.
à
oui,
te joindre par courriel s'ils ont envie de communiquer oui. Avec toi. D'autres ressources également. Évidemment, le texte du Dr Vadeboncœur oui. Dans l'actualité. Oui. Marie-Danielle, je le rappelle, tu es massothérapeute clinique, professeure en approche clinique de la relation soignant-soigné et en relation d'aide à l'Institut Kinéconcept, également administratrice, oui, au CA de la Fédération québécoise des massothérapeutes. Merci beaucoup.
Je te remercie, Marianne.